Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Gisèle Cage à la présentation de cette édition du journal. Commençons par le titre. La situation sécuritaire reste tendue au Nord Kivu. Les FARDC appuyés par les Wazalendo, la MONUSCO et les troupes de la SADC tentent d'empêcher la progression de rebelles vers Goma à partir des axes SAC Goma et Kibumba Goma. Pendant ces temps, la ville de Goma est privée d'électricité. Le caucus des députés nationaux du Congo central exprime son inquiétude quant à la stagnation des travaux de construction du port en eau profonde à Banana. Il n'y a aucun engin, moins encore aucune trace d'un chantier en mouvement. Mais les choses avancent à grands pas en ce qui concerne les travaux du pont route rail. Kinshasa-Brazzaville déplore ses députés. La situation humanitaire au nord et au sud Kivu s'est totalement dégradée en raison de l'intensité des combats entre les troupes régulières et le M23. Pour en parler, nous recevons dans ce journal le coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis, qui est notre invité. C'est tout pour les titres. Comme je le disais dans les titres, la situation sécuritaire reste tendue. C'est samedi dans les zones des combats où, depuis 3 jours, l'armée congolaise et ses alliés affrontent le rebelle du M23. Les affrontements se concentrent notamment sur l'axe Sake, dans les territoires de Massissi et Kibumba, dans les territoires de Nyiragongo. Les habitants de Goma entendent des détonations d'armes lourdes. Bernard Nyangi.
Les combats qui en sont au troisième jour ce samedi continue notamment sur l'axe Kasenge-Simubambiro autour de la cité de Sake, ainsi que sur l'axe Kanyamaoro-Kibumba en territoire de Nyiragongo. Des détonations d'armes lourdes et légères, entendues presque toute la nuit par les habitants de Goma, continuent ce samedi, accroissant l'inquiétude dans la ville. Des sources contactées dans les zones proches des deux lignes de front indiquent que sur l'axe Sake, l'armée congolaise, appuyée par les Wazalendo, la MONUSCO et la SAMIDRC, poursuivent des tentatives de libérer les notabilités de Mubambiro et de Macha qui sont toujours occupées par les rebelles du M23 autour du centre de Sake. Et du côté de Kibumba, nord de Goma, l'armée a une fois encore contré la nuit de vendredi à ce samedi une nouvelle tentative de l'attaque des rebelles sur ses positions stratégiques de Kanyamaoro et Kilimanyoka, groupement de Bumba, disent nos sources. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Pendant ces temps, Goma est dans le noir. À la suite de la coupure d'électricité depuis la soirée, la ligne de la société Virunga Energy a été endommagée à la suite des affrontements en cours sur l'axe Kibumba, territoire de Nyiragongo, une situation qui intervient 3 jours seulement après des dégâts similaires ayant coupé la ligne haute tension de la SNEL desservant Goma en électricité en provenance de Bukavu. C'était dans la zone de Nzulo, dans les territoires de Massissi. Pour le président des boutiquiers de Goma, cette situation affecte déjà les activités économiques dans la ville. Kembo Amnassi le dit au micro de Bernard Nyangi.
La coupure de l'énergie électrique de la SNEL et de Virunga au niveau des opérateurs économiques, exactement, ça va créer vraiment un impact négatif. Ce sera un manque à gagner aux opérateurs économiques, surtout dans le secteur de l'hôtellerie. Tous les hôtels fonctionnent avec l'énergie, aussi avec des entreprises magasins, boutiques aussi, fonctionnent aussi avec les courants électriques. C'est pourquoi vraiment nous ne savons pas quoi faire. Peut-être nous souhaiterions que ça puisse être rétabli rapidement, afin que les opérateurs économiques puissent continuer de faire des activités commerciales. Mais à défaut de cela, ça va nous impacter négativement dans les jours qui viennent, dès les jours à venir. C'est ça. Et comme ça dit aussi d'affecter la population, nous allons toujours prier pour qu'ils puissent rétablir les courants dans la ville de Goma.
Dans la province du Maniema, le parti politique Mouvement de solidarité pour le changement soutient les forces armées de la RDC en cette période où le pays fait face à l'agression du Rwanda qui soutient le M23. Son secrétaire général adjoint appelle toute la population à s'opposer aux agresseurs du Congo et à soutenir la vision du chef de l'État, Rajabu Amisi Bin Moussazi. S'est exprimé donc au micro de Florence Kizalunga.
Nous, cadres et membres du parti Mouvement de solidarité pour le changement, nous sommes très indignés et tiqués des actes de tuerie qui passent à l'est de notre pays par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. C'est pourquoi, comme il nous a été recommandé lors de notre rentrée politique, par le président national, honorable Laurent Batumona-Kandika, de se ranger derrière la vision du chef de l'État qui prône la paix. C'est pourquoi j'appelle la population de la RDC et celle du Maniema en particulier d'être derrière les FARDC, notre armée qui combat les rebelles du M23. La paix n'est pas l'affaire d'une personne, mais la paix c'est une affaire de tous. Nous devons être derrière d'abord la vision du chef de l'État et derrière nos FARDC pour barrer la route ainsi aux agresseurs de la République démocratique du Congo. Nous sommes confiants que les FARDC feront quelque chose et ils font quelque chose pour défendre l'intégrité de notre pays.
Alors que les affrontements entre les FARDC et le rebelle du M23 se poursuivent pour le contrôle de la région autour de la cité de Sake, la désinformation se propage à un rythme inquiétant, principalement via les réseaux sociaux. Cette prolifération des fausses informations suscite de vives préoccupations parmi les habitants, notamment à Goma, proche des zones de combat où les appels à la vigilance se multiplient face aux dangers qu'elles engendrent. Les détails avec Martial Papi Munkeba.
Depuis des jours, les combats entre les FARDC et les M23 pour le contrôle des Sake ont plongé les habitants dans une tension et une confusion accrue. La désinformation amplifiée par les réseaux sociaux vient aggraver une situation déjà critique. Certains, comme cette femme, s'inquiètent des effets de ces fausses informations.
Ces messages qu'on voit sur les réseaux sociaux nous perturbent. On ne sait plus qui croire. On lit que les FARDC avancent, puis qu'elles reculent. C'est très stressant et cela créer de la panique parmi nous.
André Michel Essungu, expert en question des désinformations dans le contexte des opérations de maintien de la paix de l'ONU à New York, avertit la population.
Cette période de tension voit souvent plus de posts sur les médias sociaux et de contenus diffusés par divers moyens qui ressemblent à des contenus visant à manipuler les populations, à leur faire peur, à rendre la situation encore plus tendue qu'elle ne l'est déjà. Donc il est important d'être plus vigilant encore que d'habitude, parce que la désinformation se nourrit de ce sentiment de peur et de ce sentiment de danger.
Les médias et les journalistes sont appelés à redoubler d'efforts pour lutter contre la désinformation. Goma, Martial Papi Munkeba, Radio Okapi.
Toujours en lien avec l'agression du Rwanda, le Conseil suprême de la société civile congolaise recommande au président de la République de décréter en urgence et par procédure constitutionnelle l'état de siège dans la province du Sud Kivu. Lors d'une déclaration devant la presse ce vendredi à Kinshasa, le président national de cette structure citoyenne a indiqué que face à l'avancée de rebelles du M23 soutenue par le Rwanda, il est urgent de recourir à une administration dissuasive pour sauver la province du Sud Kivu. Par ailleurs, Maître Carlos Mupili recommande la désignation objective des animateurs parmi les officiers généraux supérieurs non originaires de cette province. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Oui, le Conseil suprême de la société civile congolaise est très inquiet d'apprendre que l'ennemi est déjà présent dans la province du Sud Kivu. Nous demandons au président de la République, commandant suprême des forces armées, de décréter en urgence et par procédure constitutionnelle l'état de siège dans le Sud Kivu. Les gens se trompent lorsqu'ils confondent l'état de siège et les animateurs de l'état de siège. L'état de siège ne peut pas échouer parce que c'est une mesure constitutionnelle et on ne peut pas négocier ni discuter avec les prescrits de la Constitution. C'est pourquoi la désignation des animateurs de l'état de siège au Sud Kivu doit être objective. C'est-à-dire, on doit chercher les officiers généraux supérieurs non originaires pour venir vite organiser l'administration militaire dans la province. Pour sauver la province, il faut vite recourir à une administration dissuasive qui est l'état de siège.
Pour boucler cette page sécuritaire dans la partie nord de la province du Nord Kivu, précisément dans les territoires de Beni, 13 détenus se sont évadés du cachot du commissariat de police des cantines dans la nuit de mercredi à jeudi. Cantine est une localité située à environ 50 km à l'ouest de la ville de Beni. La société civile locale précise que les détenus ont profité de la vétusté du mur de ces cachots datant de l'époque coloniale pour creuser un trou et s'échapper. Elle appelle la population à signaler aux services de sécurité la présence de tout individu suspect. Tchétché Moussoubao, le président de la société civile de Cantine, a été joint au téléphone par Marc Marofimbo.
Dans les cachons, il y a 17 détenus, dont 13 se sont volatilisés dans la nature et 4 geniers restés dans les cachons. Heureusement, le commandant de la police à place, comme les 4 détenus n'avaient pas des infractions graves, ils ont jamais été libérés le matin de ce jeudi. Et les détenus ont profité par la veillance de la maison qui loge la police nationale congolaise. Ils ont trouvé en fait les murs derrière les cachons. C'est là où ils ont trouvé les chemins de se volatiliser dans la nature. Pour dire que les bâtiments qui abritent la police nationale congolaise sous le commissariat de cantine datent de l'époque coloniale. Puis nous allons continuer avec les enquêtes avec l'OPJ. Nous allons voir parmi les détenus, est-ce qu'on peut en avoir les détenus qui étaient nuisibles à la communauté. Pour attirer l'attention de la population, on peut voir celui qui était détenu dans les cachons et il est nuisible à la communauté. Directement, ils peuvent appeler le service de sécurité pour le maîtriser encore plus.
Autre chose à présent, le caucus des députés nationaux du Congo central exprime son inquiétude quant à la stagnation des travaux de construction du port en eau profonde à Banana dans les territoires de Mouanda. En visite dans cette région, les membres du caucus constatent que les travaux sont au point mort sans aucun engin ni trace d'un chantier en mouvement. En revanche, ils notent des progrès significatifs dans la construction du pont route rail Kinshasa-Brazzaville. Pierre Sumbu Mutuka Kalavo, président du caucus, appelle le chef de l'État à tenir sa promesse de prioriser la construction du port en eau profonde pour favoriser l'intégration nationale. Ces propos ont été recueillis par Nana Plurich Mambou.
Nous sommes à Banana, où doivent s'ériger les travaux de la construction du port en eau profonde. Ce port dont l'importance n'est pas démontrée. Nous sommes d'autant plus inquiets que nous constatons que depuis notre dernière visite, rien n'a évolué ici. C'est le statu quo ici. Nous sommes caucus de députés du Congo central. Nous relayons non pas seulement l'inquiétude de la population vivant au Congo central, mais l'inquiétude de toute la population congolaise. Ce port, c'est une affaire de souveraineté nationale. Ça concerne d'abord la RDC. Et ici, non pas seulement que nous sommes inquiets, mais aussi nous pouvons compter sur le chef de l'État qui n'a jamais changé sa position selon laquelle, oui, à l'érection du pont route rail entre Brazzaville et Kinshasa, parce que nous pouvons nous opposer à l'intégration régionale, mais d'abord l'érection de ce port en eau profonde. D'abord l'intégration nationale et puis viendra l'intégration régionale à travers le pont entre route et rail. Donc nous continuons à compter sur cette détermination, cette volonté du chef de l'État, mais nous sommes inquiets aussi de voir que de l'autre côté de Kinshasa, apparemment, les travaux semblent plus avancés qu'ici.
Parlons économie dans ce journal. Dans la province de l'Ituri, une hausse de prix du poisson est constatée depuis quelques jours sur le marché de Bounia. Pour certaines catégories de poissons, le prix a augmenté de plus de 50% même à partir des camps de pêche du lac Albert. Cette situation est due à la recrudescence de la pêche illicite sur les lacs, selon le président de la Fédération des comités de pêcheurs du lac Albert. Sadiq Aboubakar nous fait le point.
La consommation du poisson commence à devenir un luxe pour de nombreuses familles à Bounia. Depuis quelques mois, le prix de cette denrée, désormais rare, ne cesse d'augmenter jour après jour. C'est ce qu'explique Moïse Ouel, le président des pêcheurs au lac Albert.
Entre les mois de juillet, août et septembre, les prix d'un kilogramme de poisson frais variaient entre 6 et 8 000 francs. Mais aujourd'hui, un kilo de poisson frais s'achète à Tchoumé et Kassigne au lac Albert entre 13 et 15 000 francs congolais. Si déjà la source et les prix a presque doublé, quel sera le prix au marché de Bounia?
Cette femme au foyer que nous croisons au marché de Ambiaya à Bounia n'en peut plus de cette hausse vertigineuse du prix des poissons.
Avec 10 dollars, on achetait les poissons, on achète les légumes, mais pour le moment, on vient avec 10 dollars, on achète seulement les poissons. Il n'y a pas moyen d'acheter les légumes, des tomates, des épices, tout ça, c'est devenu compliqué.
Le président des pêcheurs explique que cette situation est due à la pêche illicite sur les lacs Albert.
La hausse des prix est due à la rareté des poissons au lac, et cette rareté est due par le fait de l'utilisation à outrance des filets moustiquaires dans la pratique des pêches. Et malheureusement, ce sont des militaires de la forces navales qui les font. Un militaire peut disposer de 5 voire 7 barques de moustiquaires.
Nous n'avons pas pu avoir la réaction de la force navale à ce sujet. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Faire de l'Ordre national des experts comptables un pilier de la bonne gouvernance et de la transparence financière est l'objectif que s'est fixé le nouveau président du Conseil national de cette structure. Il a annoncé le vendredi lors de la cérémonie officielle d'installation du nouveau Conseil national élu en décembre dernier. Pour le président Jean-Marie Ntoumba, les experts comptables doivent jouer un rôle central dans la gestion des finances publiques. On l'écoute dans ses propos recueillis par Jacques-Yves Molima.
À travers le nouveau mandat qui s'ouvre, nous devons nous appuyer sur le plan stratégique. Au niveau national, faire de l'ONEC un pilier de la bonne gouvernance et de la transparence financière. Protéger et pérenniser la réforme sur la certification des états financiers. Créer une commission dédiée au secteur public. Les experts comptables doivent jouer un rôle central dans la gestion des finances publiques en collaborant avec les institutions telles que la Cour des comptes et d'autres organes de l'État. Au niveau international, poursuivre activement notre adhésion à l'IFA. Cette adhésion demeure une priorité stratégique pour aligner notre ordre sur les standards internationaux, renforcer notre crédibilité et ouvrir de nouvelles opportunités à nos membres. En tant que président de l'Ordre, je m'engage avec l'appui des membres du Conseil national et de tous les experts comptables à poursuivre les efforts pour bâtir un ordre encore plus fort et respecté, capable de répondre aux défis de notre époque.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, le président vient de signer une loi qui fait beaucoup de bruit dans le pays, la loi de l'expropriation. Elle permet à l'État, dans des cas très précis d'intérêt public, de récupérer de terres sans compensation pour construire des écoles ou des logements au loyer abordable. Par exemple, objectif avancé par l'ANC, rétablir une certaine égalité alors que les terres sont encore 30 ans après la fin de l'apartheid, majoritairement détenues par la minorité blanche. Après 3 siècles de colonisation et plus de 40 ans d'un régime raciste d'apartheid dans l'Afrique du Sud, aujourd'hui la minorité blanche détient encore le 3/4 de terre du pays. Cette loi est alors présentée comme un moyen de corriger les inégalités du passé.
L'invité.
Le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis, a conclu hier vendredi sa mission de 5 jours dans l'est de la RDC. Dans cet entretien exclusif avec Radio Capi, il évalue sa mission et parle de la dégradation de la situation humanitaire au nord et au sud Kivu en raison de l'intensification donc des combats ainsi que des interventions humanitaires en cours. Bruno Lemarquis s'entretient donc avec Denise Loukesso.
Monsieur le coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis, bonjour.
Bonjour et bonjour aux auditeurs de Radio Okapi.
Vous venez de boucler votre mission de 5 jours dans la partie est de la République. Comment évaluez-vous sur l'ensemble votre mission?
Je vais peut-être commencer par l'Ituri où nous avons passé 2 jours. Du point de vue de la situation sécuritaire et humanitaire, nous nous sommes également rendus sur Inga Barrière. D'une manière générale, il y a un certain calme en ce moment en Ituri, sauf bien sûr dans le territoire de Djougou et puis vers le sud de la province de l'Ituri avec le groupe ADF. Bonne nouvelle, il y a certains territoires où la situation s'est relativement stabilisée ces derniers temps grâce à tous les efforts du gouverneur, des forces armées, des forces de sécurité congolaises qui travaillent de manière très étroite avec la MONUSCO. Du point de vue de la situation humanitaire, il reste quand même 1,4 million de déplacés dans la province de l'Ituri. C'est là vraiment le territoire où il y a le plus de défis sécuritaires, le territoire de Djougou, où là les besoins restent très très élevés avec énormément de déplacés, beaucoup d'entre eux dans des familles d'accueil. Les acteurs humanitaires sont pleinement mobilisés pour répondre aux besoins des populations déplacées. Au niveau de la zone de Beni, du point de vue humanitaire également, beaucoup de besoins, notamment du fait de l'activisme du groupe ADF, qui récemment a repris ses activités dans des territoires d'où il avait été absent depuis plusieurs années. Et il est également apparu dans d'autres zones où il n'avait jamais été actif. Donc il y a beaucoup de victimes civiles du fait des ADF, beaucoup de déplacés. C'est une situation également très grave du point de vue humanitaire. Ensuite, c'est la situation du Sud Kivu et autour de Goma avec la dernière offensive du groupe M23. En termes des besoins humanitaires, bon, il y avait déjà énormément de déplacés qui étaient présents autour de Minova, territoire de Calais. Beaucoup de ces déplacés ont dû se redéplacer du fait de l'avancée du M23. 78 000 personnes ont fui les combats actifs dans le territoire de Calais au Sud Kivu. On est en train de se réorganiser comme acteurs humanitaires pour pouvoir accéder à ces populations dans le besoin. Les acteurs humanitaires restent pleinement mobilisés pour appuyer ces personnes.
On sent de plus en plus la situation s'est dégradée au Nord Kivu, tout comme au Sud Kivu. Avec ces nouveaux déplacements, ça peut avoir quel impact humanitaire ?
Bon, l'impact humanitaire, c'est des nouveaux déplacements de population, notamment de population qui a été plusieurs fois déplacée déjà, donc des gens extrêmement fatigués, des gens qui sont dénués de tout, donc ils doivent reprendre leur petit baluchon et rebouger une xème fois. Des impacts en termes de protection, de risque, la protection des civils. On pense notamment aux personnes qui bougent de l'ouest vers l'est, qui sont maintenant dans la banlieue très proche de Goma, une zone avec énormément d'hommes en armes, et puis les risques, compte tenu de l'évolution de la situation, de gros risques sur la protection des civils. Il y a des problèmes d'accès humanitaire sur lesquels on travaille compte tenu de l'évolution rapide de la situation. Nous sommes en train de faire des évaluations, des analyses sur les besoins humanitaires, sur nos capacités de répondre, puisque les acteurs humanitaires également sont affectés par cette situation, donc les capacités de réponse. Et puis nous faisons également des scénarios, puisque nous ne savons pas quelle direction cette situation va prendre, mais on doit se préparer au niveau des acteurs humanitaires, au niveau des Nations Unies. Nous sommes sur terrain. Nous faisons le maximum pour assurer la sécurité de nos personnels, mais nous sommes là aux côtés de la population pour apporter notre assistance.
Oui, les combats se sont intensifiés dans la partie du territoire des Kalehe. Certains humanitaires ont suspendu momentanément leur mouvement dans cette zone. Avec quelles conséquences sur les communautés locales et les déplacés qui bénéficiaient de cette assistance ?
Alors, quand il y a des combats actifs, oui, on ne peut pas travailler, donc on s'adapte, on attend que la situation de combat soit terminée, et ensuite on reprend les activités. Compte tenu des mouvements, de l'évolution de la situation, des mouvements actuellement en cours, on se réadapte, nous discutons pour toujours avoir l'accès humanitaire, donc pour que trouvons les voies et moyens pour accéder aux populations qui en ont besoin. Nous suivons de près les déplacements de population, où est-ce qu'elles sont, quels sont les besoins, etc. Et puis on mobilise, notamment avec le concours de OCHA, on mobilise les acteurs humanitaires, on essaye de coordonner, on priorise pour que notre réajustement corresponde aux besoins des populations.
Monsieur Bruno Lemarquis, je rappelle que vous êtes le coordonnateur humanitaire. Radio Okapi vous remercie.
Merci beaucoup et merci toujours aux auditeurs de Radio Okapi pour leur fidélité à Radio Okapi.
Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire en RDC, s'entretenait avec Denise Loukesso depuis la ville de Goma. Ce journal prend fin sur Radio Okapi. Il a été mis en onde par Billy Landry Betou. Jacques-Yves Moulima a assuré la coordination. Gisèle Cage, c'est moi. J'ai eu le plaisir de vous accompagner. Et je vous retrouve à 16h pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien.